je partage tout ce que vous avez dit. Sur la première partie, je suis persuadée qu'on se dirige vers un monde multipolaire et que si l'Union européenne n'est pas en capacité de peser, alors elle disparaîtra effectivement. Et qu'il y a un processus possible, il n'y a pas simplement de renforcer l'Union européenne, mais d'élargir son horizon, en particulier vers la Méditerranée et l'Afrique. Je le dis rapidement. Ce qui n'est pas porté véritablement de fait par l'Union européenne aujourd'hui. La deuxième chose dont je vais vite, je vois que. Donc ça sera, je m'excuse du caractère abrupt. Peut-être mettre un peu de démocratie au niveau européen, faire intervenir le peuple pourrait apporter des solutions.
Très bien, première question. Oui, donc Jean-François Fougerat, donc il est toujours bon PDF. Simplement, donc j'ai beaucoup apprécié votre exposé sur le diagnostic tout à fait, que vous faites des structures et surtout du lien que vous avez bien établi entre ce que j'appelle un peu le contrat, qui est le traité multipolaire, enfin multinational, qui est une espèce de contrat et la structure politique et organisationnelle qui a été mise en place. Derrière, effectivement, face aux défis du futur, vous avez esquissé un scénario qui est dire finalement, on va continuer à marcher en crabe probablement. Comme ça, dans le monde qui est le monde multipolaire qui est en train de se dessiner, sur lequel les bascules en termes de pouvoir et de puissance sont relativement, potentiellement très importantes. Ma question est la suivante, est-ce qu'il y a une réflexion politique? Quels seront les scénarios plus exactement, plus contrastés qu'on pourrait définir? Puisque pour un monde qui va se transformer comme ça, je pense qu'il faut passer par un projet politique. Donc les projets politiques qui peuvent allier la démocratie, comme l'a dit ma collègue, ces projets politiques, elles ne peuvent pas aujourd'hui être développés dans la structure institutionnelle qu'elle a mise en Europe. Je ne sais pas si je suis clair dans ma question, c'est quelle est l'ouverture du jeu qu'on pourrait faire, hein, puisque dans la structure organisationnelle ne permet pas de développer un vrai projet politique, puisqu'il y a effectivement des séparations de pouvoir. Et quand on va aller sur un projet politique, à un moment, il va falloir qu'il y ait des choix démocratiques vers de vrais projets politiques. Est-ce qu'il y a des réflexions en cours dans ce domaine-là, autres que ceux qui sont menés dans les filtances des partis politiques, de certains partis politiques, de différents pays?
Adorez pour votre question.
Oui. Christophe Cadereau, du département du Loiret. Après votre brillante intervention et votre question sur que fait l'Europe, on n'en ressent pas très. Enfin, un discours pas très optimiste. Alors, avant de poser une autre question, quel avenir pour l'Europe, ou y a-t-il un avenir pour l'Europe face aux enjeux, aux défis qui nous attendent? Arrivera-t-on un jour à une organisation qui nous permettra de faire face à ces défis?
J'en prends quand même là et une autre là.
Philippe Rovalet, je suis vice-président du Conseil général de Loire-Atlantique. Moi qui ai non seulement voté, mais défendu le non au traité constitutionnel. Est-ce que les choses sont pour autant immuables dans ce que vous décriez? Parce que d'être revenu plus loin en arrière, en parlant de Charlemagne, Hitler et autres, n'y a-t-il pas besoin quand même? N'est-il pas nécessaire qu'il y ait des ruptures à cette évolution? Et la crise là qui a démontré. Moi, j'ai entendu sur mon territoire des libéraux, des tenants, des responsables du MEDEF défendre aujourd'hui ce que moi je défendais au moment du débat sur le traité constitutionnel, par exemple, sur les régulations sociales, fiscales, etc. Donc, est-ce que l'histoire n'impose pas qu'à certains moments, il y a aussi des ruptures dans cette recherche permanente de ce que vous décrivez comme un consensus permanent?
Très vite, une et deux, court.
Ma question fait écho à la précédente. Vous nous avez parlé de l'impossibilité d'implémenter des politiques transnationales, notamment en matière industrielle, d'essence européenne. Alors, parce que ces politiques transnationales butent sur la question de la mise en œuvre de cette concurrence, cette fameuse concurrence qu'on voudrait vivre parfaite, etc., et qu'on n'arrive pas, tout simplement parce qu'elle n'est mise en œuvre nulle part ailleurs, ni par les États-Unis, ni par l'Asie, ni par l'Afrique. Il n'y a qu'en Europe qu'on essaye absolument, de force, quasiment, d'implémenter cette concurrence. Est-ce qu'on ne devrait pas s'interroger sur l'essence même de cette valeur qui finalement n'en est pas une? La concurrence n'est pas une valeur et c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à mettre en place.
Moi, je vais poser une question. Je
vais présenter très vite.
Je m'appelle Vincent Val et je travaille au ministère avec le CTE. Je vais poser une question idiote que vous allez peut-être m'aider à rendre intelligent. Quelle est la condition compte tenu au couple franco-allemand a une friction particulière et est-ce qu'il ne cache pas justement peut-être la nécessité de sortir de ce romantisme de grande politique.
Je peux faire un des trois, mais tous les trois. Je ne garde pas. Écoutez, je crois que c'est l'inconvénient des grandes fresques. Ça appelle de grandes questions, mais je me garderai de la tentation des grandes réponses. Juste quelques télégrammes, parce qu'il y aurait de quoi meubler quelques jours de discussion et nous ne serions sans doute pas toujours d'accord. Mais juste quelques éléments de réflexion dans le désordre. Madame, vous nous parliez de démocratie, bien sûr, c'est important dans un système qui se veut former l'État démocratique. On s'est posé le problème de très tard au niveau européen, parce qu'on considérait que précisément, puisque c'était des États démocratiques, ce qui résultait de leur coopération était nécessairement démocratique. Donc, on voit aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué que cela. Il y a quand même un chemin formidable qui a été parcouru. Je pense qu'on ne mesure pas assez, dont européennes n'ont pas un effet mobilisateur, c'est entendu, elles n'ont pas non plus au niveau européen la fonction programmatique qu'elles peuvent avoir au niveau national, qu'elles peuvent avoir, hein, parce que savoir si les élections ont vraiment une influence aussi considérable que ça sur l'action des gouvernements. Il faut débattre très longuement là-dessus, mais je dis simplement que, bref, avec toutes les imperfections du système, il me semble on a beaucoup plus loin en termes de démocratie que n'importe quel autre régime international. Je souhaite bien du plaisir au G20 si un jour il réussit, ce que j'espère, à jouer un rôle dans la régulation de l'économie internationale, il devra faire face au même problème. Et on n'a toujours pas trouvé les clés exactes qui permettent de faire entrer l'élément démocratique dans ces mécanismes de coopération. Pourquoi ? Eh bien parce que, alors là, le fait d'être belge est un gros avantage parce qu'on peut expliquer qu'un système qui repose sur le consensus, par hypothèse, a beaucoup de difficultés avec la démocratie. Le consensus, c'est un accord en décomposant différentes qui représentent des intérêts différents dans le territoire, dans d'autres intérêts. Démocratie, au sens où on entend un homme, une femme, une voix, c'est assez difficilement compatible. Multiplier ça par les dimensions du système, et vous avez une idée de la difficulté structurelle. On n'a pas encore trouvé la martingale qui nous permette de répondre à cette question-là. Réflexion politique, il y en a tous les minutes. Est-ce que ça a une quelconque influence sur ce que vous appeliez, je crois, de vos voeux, c'est-à-dire une réflexion de ceux qui sont dans la machine et qui pourraient en quelque sorte définir un grand projet comme précisément était parvenu quand même à le faire de l'or du temps de sa présidence, la réponse est non. Et c'est un peu là mon mécontentement à l'égard de la longue promenade institutionnelle qui, j'espère, va prendre fin bientôt, c'est qu'on s'est étripé sur des questions, à mon avis, intéressantes, mais quand même secondaires, au sens où je le disais, c'est-à-dire que le fait de savoir où on devait voter ou pas, les pouvoirs du Parlement, et tout ça, ça n'est pas dépourvu d'importance, mais c'est secondaire. Il fallait d'abord, à mon avis, s'entendre sur ce que l'on voulait faire, parce que c'est comme ça qu'on a construit l'Europe, et comme elle ne repose pas sur une identité européenne, il faut bien partir de là. On est toujours au point de départ, à mon avis. Je finis juste en disant l'avenir, je ne suis pas nécessairement pessimiste, précisément, étant né dans un pays qui était dont la disparition était déjà annoncée depuis 100 ans au moment où j'ai vu le jour, je constate qu'il est toujours là et qu'il est encore plus imparfait par le passé. Donc l'Europe, à cette zone-là, encore très beau jour devant elle, je serais pas pessimiste. Et un petit mot sur la concurrence, juste un mot, pour dire que il ne faut pas fétichiser ce thème-là. Et que la concurrence, j'observe que l'Europe a bien des problèmes pour la faire respecter le multi-emploi,
quand on a un géant en matière informatique qui est Microsoft, les Américains s'inclinent devant son autorité économique, les Européens, parce que les Américains, les entreprises, les concurrents américains de Microsoft viennent porter l'affaire devant la Commission et la Cour de justice, les Européens imposent certaines limites à la puissance du grand capital, si je peux ainsi...
Quelle conclusion
Idem, sur un autre domaine, un autre thème autrement tout aussi sensible, qui est celui des OGM, les agriculteurs américains hésitent à faire des OGM, non pas qu'ils trouvent que c'est très mauvais, mais parce qu'ils se disent, si on en fait et qu'on ne sait pas écouler ça en Europe, ce qui est la situation actuelle, eh bien, c'est un problème. Donc l'Europe n'est pas toute nue. Elle a un certain nombre d'instruments à son service. Et notamment, elle a un marché d'une certaine taille,